Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie et particulièrement les auditeurs fidèles du libre journal de la liberté de penser. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une émission un peu particulière. Particulière parce que je reçois deux amis en face de moi. La première que je vais vous présenter, mais vous la connaissez si vous suivez le libre journal de la liberté de penser, il s'agit d'Axel Hubert. Merci d'être avec nous, Axel.
Merci à vous, Clara.
Dans notre studio de Radio Courtoisie. Et on va parler en fait d'un sujet qui peut-être, sans que vous le sachiez réellement, vous concerne, vous ou quelqu'un que vous connaissez peut-être. En France, il y a entre 8 et 11 millions d'aidants. Un Français sur quatre le sera d'ici 2030. Et pourtant, un aidant sur deux ne se reconnaît pas comme tel. Alors, on accompagne un parent qui vieillit, un conjoint qui est malade, un enfant qui ne va pas bien, et on fait simplement. Sans mots pour le dire, sans relais, et souvent bien sans que personne ne le mesure vraiment. Mon invitée, Axel Hubert, connaît cette expérience. Elle a accompagné son mari, Léonard, atteint de la maladie de Charcot, jusqu'à sa mort en 2013. Elle accompagne aujourd'hui encore sa maman, et en juillet 2024, son fils Calixte, alors âgé de 15 ans, a été diagnostiqué d'un cancer des os très rare. Axel Hubert, vous êtes mère de 4 enfants, il faut le dire, bravo, et son livre, et vous venez nous présenter votre livre qui s'appelle « La ligne de crête des aidants » aux éditions Mama,
oui,
et qui sortira le 15 mai. Toutes ces références sont évidemment sur le site de Radio Courtoisie. Alors vous dites en filigrane de votre livre que la lourdeur, et je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie pour certains vont s'y reconnaître, la lourdeur elle est quotidienne, la fatigue, la peur, oui, mais aussi tout ce qu'on n'attend pas en fait. Vous êtes un peu la mère debout, hein, vous veillez sur votre fils sans évidemment jamais lâcher sa main, mais vous êtes aussi une femme d'espérance qui n'a pas peur de dire la fragilité parce qu'elle sait que c'est par là que passe la vraie force. Et puis, vous êtes une professionnelle. Vous êtes devenue coach de vie, il faut le dire comme ça ?
Oui, coach de vie, tout à fait.
Vous êtes thérapeute. Et c'est tout ce que vous avez traversé aujourd'hui qui accompagne concrètement votre méthode en chemin pour les lecteurs et les personnes que vous accompagnez. Et puis, nous aurons également la joie de recevoir une personne que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, puisque c'est une collègue, Valérie Daubigny.
Bonjour. Bonjour Clara.
Vous dirigez on peut peut-être rappeler, votre libre journal d'ailleurs.
Oui, le libre journal de la transmission. Grande joie autour des sujets de société, éducation, famille.
Voilà, une fois par mois. Et puis vous viendrez partager avec nous à la fois votre expérience sur le sujet des aidants personnels, si vous en avez envie, et dans les limites de ce que vous avez envie de dire aussi, parce qu'on touche quand même à l'intime et à la vie privée. Et puis, vous égrainerez, s'il vous plaît, je vous le demande en tout cas, tout au long de cette émission, en tant que critique littéraire jeunesse, de vos conseils de lecture autour de ce sujet, si vous voulez bien. Alors, Axel Hubert, vous êtes venu nous présenter, mais pas seulement, votre dernier livre, « La ligne de crête des aidants, tenir sans se perdre aux éditions MAM ». Il faut soulever que vous avez déjà publié d'autres livres, et d'ailleurs je vous avais reçu pour ça, je cherche les références. Le premier, évidemment, « Si je ne peux plus marcher, je courrai », le titre, je ne m'en lasse pas.
Oui. Le titre qui reprend une phrase que Léonard, lorsqu'il était atteint de la maladie de Charcot, avait prononcée. Et c'est un livre qui est sorti en 2016.
Aux éditions MAM aussi.
Voilà.
Et puis vous étiez aussi venu nous parler d'un autre livre qui s'appelle Le Deuil, une odyssée, édition MAM 2023.
Exactement.
Écoute, Axel Hubert, j'ai d'abord envie de vous poser une question qui n'en est pas forcément une autre, pour vous demander, ce matin, en venant ici à la radio, comment allez-vous et dans quel état d'esprit vous êtes arrivé ?
Eh bien, je suis comme beaucoup d'aidants, assez fatiguée, parce que cette charge de l'aidant est lourde et que ça commence à tirer, bien évidemment. Et dans quel état d'esprit je suis ? Je suis extrêmement heureuse et motivée, tellement j'aime à parler de ce sujet de l'aidance, de ce sujet des deuils et des ruptures de vie qui sont les nôtres et qui sont inévitablement les nôtres, puisqu'il n'y a pas de vie sans souffrance. et qu'il n'y a pas non plus et que la souffrance ça peut aussi s'accompagner de la joie. Et donc notre sujet de l'aidant, c'est et nos sujets de nos ruptures de vie, c'est aussi un sujet de comment remettre de la joie au cœur de nos souffrances.
Voilà, on va pas faire une émission triste, on n'est pas parti pour ça. On va faire une émission qu'on a préparée sérieusement, sur un thème sérieux, mais en y apportant toute la légèreté, la joie de vivre et l'espérance possible. Alors, en exergue de votre livre, vous avez cité une phrase de Madeleine Delbrel.
Delbrel, oui.
La charité est une présence, elle n'est pas un sentiment, elle est quelqu'un qui est là. Alors pourquoi ces mots en ouverture de votre livre ?
Bien parce que il y a cette conviction très forte que les aidants ne peuvent pas s'en sortir tout seuls, que sur leur ligne de crête, qui est ce chemin très ténu avec des équilibres à ajuster, à réajuster en permanence, eh bien, les aidants ont besoin de sentir et, enfin, pardon, de voir concrètement des mains qui se tendent et que la charité, elle est une présence en acte et en vérité, elle n'est pas seulement un sentiment. On a besoin, quand on est aidant, de trouver des cordées sur nos ascensions rudes et ces chemins escarpés. On a besoin de gens qui vont concrètement nous aider. Donc ce livre, La ligne de crête des aidants, s'adresse bien sûr à tous les aidants, pour qu'ils se sentent rejoints, en mots en tout cas, pour qu'ils puissent avoir des pistes, qui ne vont pas être des recettes miracles, hein, mais des pistes et des ressources pour aller mieux et pour avancer. Et puis ce livre s'adresse à tous ceux qui sont autour des aidants, c'est-à-dire à vous tous, auditeurs, à nous tous.
De 8 à 11 millions, je le redis parce que le chiffre est fort et il est impactant, 8 à 11 millions de personnes sont aidantes en France.
D'un proche.
Alors, petite anecdote, je vais donner une petite anecdote à nos auditeurs. Avant de rentrer dans le studio, je vous ai présenté à une amie. Elle a tiqué sur le mot aidant, vous avez vu ? Et elle a pensé à « Ah, vous avez fait un livre sur les aides-soignants ». C'est intéressant cette remarque, parce qu'on pourrait peut-être commencer par la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un aidant ? Ce n'est pas un aide-soignant, c'est justement toute la différence.
Oui, bah un aidant, ce n'est pas un professionnel de la santé. Ce n'est pas quelqu'un qui va être payé, salarié, pour donner de l'aide à quelqu'un qu'il ne connaissait pas ou qu'il connaissait peu au départ. Un aidant, c'est quelqu'un de la famille ou un proche ou un voisin ou un ami, ça peut être aussi vraiment des liens d'amitié, qui vient en aide pour un nombre d'heures qui n'est pas défini, mais que lui va en fait définir, et il vient en aide de manière bénévole et gratuite. Voilà.
Voilà, il fallait peut-être aussi commencer par cette définition.
Tout à fait.
De l'aidant. On n'a pas trouvé un autre mot, je sais que pendant un moment vous étiez peut-être interrogé sur... dire autrement les choses, il y avait les aidants, il y avait peut-être d'autres pistes.
Bah, il y a eu les proches aidants.
Oui.
Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a très souvent une confusion entre un aide à domicile professionnel, voilà, un ou une, et un ou une aidante qui n'est pas un professionnel, qui est bénévole et qui fait partie du cercle familial ou amical.
Alors, quelques chiffres que vous donnez dans votre livre. 58% des aidants sont des femmes, 42% des hommes. Oui. Les aidants ont en moyenne 52 ans. 52% des aidés sont des personnes âgées, 48% sont en situation de handicap ou atteints d'une maladie grave, hein, ce qui fait quand même quasiment 50-50. Oui. 80% des aidants s'occupent d'un membre de leur famille. Ensuite, vous citez les heures consacrées. Alors, 8% consacrent plus de 40 heures par semaine. A contrario, environ 40% consacrent 1 à 5 heures par semaine. Donc, ça s'égrène en fait sur la semaine. 74% des personnes aidées vivent à leur domicile et 18% chez l'aidant. 11% en institution. 61% des aidants aident une personne, mais 39% en aident deux. Et 66% des aidants croient que l'ensemble de la population est concernée par le sujet. Et vous dites, parce qu'il faudra en parler aussi, et on va le faire dans l'émission, que la valeur du travail des aidants, si vous la calculiez, en fait, vous atteignez le chiffre de 11 milliards d'euros de prestations non rémunérées, soit de sérieuses économies pour l'État.
Et oui, évidemment, pour l'État, c'est très intéressant d'avoir ces aidants sous le pied. Sur ces chiffres, juste une petite remarque, ils sont bien sûr à prendre avec un petit peu de recul, puisque la moitié des aidants ne se reconnaissent pas comme tels.
Et n'ont peut-être pas envie de le faire d'ailleurs.
Et n'ont pas envie de le faire parfois.
Parce que c'est dans aidant, don, et finalement on considère peut-être que c'est quelque chose de normal, sans qu'il y ait besoin.
Il y a de ça, et puis il y en a qui n'ont pas envie d'être enfermés par une étiquette. Il y en a qui ont peur que cette étiquette leur revienne à la figure comme un boomerang, et notamment dans le milieu de l'entreprise. Et il y a bien sûr tous ceux qui considèrent que c'est tellement normal qu'il n'y a pas besoin d'avoir ce statut, alors qu'en fait, ce statut permet d'être connu, d'être valorisé et donne des droits.
On va en parler également plus tard. Alors, ce livre, c'est votre troisième livre, hein, comme je le disais en introduction. Le premier, en 2016, racontait la fin de vie de votre mari, Léonard, qui est mort de la maladie de Charcot, très jeune, hein, je crois, une quarantaine d'années.
Oui, il venait d'avoir 41.
Le deuxième, en 2023, parlait du deuil également, puisque vous êtes coach de vie dans ce domaine spécifique de l'accompagnement dans le deuil. Vous allez dans les écoles, vous faites des conférences.
Dans le domaine du deuil et de tout ce qui est rupture de vie. Et bien évidemment, le sujet de l'aidant, c'est aussi un sujet de deuil qu'on appelle le deuil blanc.
Ça, j'aime beaucoup la notion, on va y revenir. Et puis, il y a eu ce jour de juillet 2024. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots ce qui s'est passé ce jour-là pour votre fils, même si c'est douloureux, pardon.
Oui, alors, mon fils Calixte se plaignait depuis quelque temps d'avoir mal au dos. Et comme il avait 15 ans, je lui répondais, écoute, c'est rien, c'est normal, tu grandis, ça va passer. Il était fatigué, mais je savais que son père avait été fatigué au même âge, donc c'est rien, c'est normal, ça va passer. Puis jusqu'au jour où on finit quand même dans un centre d'imagerie. Et Calix fait son IRM. Et à la suite de ça, la radiologue, au lieu de nous donner le compte-rendu dans la salle d'attente où on était, eh bien, nous demande de la suivre dans son bureau. Et là, elle nous annonce que Calix est atteint d'une tumeur. Elle ne prononce pas le mot cancer de prime abord, mais elle le fait ensuite. Et donc, le tsunami, à nouveau, hein, après la maladie de Charcot de Léonard, nous tombe dessus.
Et vous avez une phrase d'ailleurs qui m'a frappée dans le livre. Vous dites « Il me restait une case à cocher avec une petite pointe d'humour grinçant, sans doute ». Est-ce que vous pouvez revenir sur cette phrase, sur ce qu'elle protège et ce qu'elle dit en fait, en réalité ?
Eh bien, elle dit que j'avais été l'aidante de Léonard, que j'avais été ensuite l'aidante de mes parents, de mon papa qui est mort un mois après l'annonce du cancer de Calixte, de ma maman aussi, hein, qui est rentrée dans un âge avancé, mon père comme ma mère, avec les problèmes de santé qui arrivent un peu inévitablement à ces âges-là. Et puis, je suis désormais l'aidante de mon fils, donc aidante du conjoint, des parents et d'un enfant. Voilà les trois cases à cocher. Alors, heureusement, c'est quand même assez rare d'avoir cette multicasquette d'aidante. Mais ça m'est tombé dessus, je ne l'ai pas choisi. Donc c'est une réalité qui s'est imposée et à laquelle il s'agit de dire oui et de redire oui quand on n'a pas réussi à dire oui ou qu'on a repris ce qu'on avait donné la veille en fait.
Alors 14 ans, on sépare le diagnostic de Léonard en 2010 de celui de Calix et vous écrivez en 2010, en fait vous ne connaissiez pas, c'est intéressant ça aussi de le voir. En 2010, le mot aidant, vous ne le connaissiez pas. Enfin, je épaissis le trait exprès, mais en gros, c'est ce que vous dites dans votre livre. Et en 2024, il vous vient tout de suite et vous le portez immédiatement. Alors, qu'est-ce qui a changé pour vous, en tout cas, dans ce concept d'aidant, dans ces 14 ans qui se sont écoulés entre les deux diagnostics ?
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le regard de la société et puis les différentes législations sur les danses qui ont fait que l'information est parvenue jusqu'à mon cerveau. Donc je ne connaissais rien de ce sujet de les danses alors même que j'étais aidante de mon mari. Je ne savais donc pas qu'il y avait ce mot-là. Et en effet, quand Calix est tombé malade, en quelques minutes, je me suis mis cette étiquette et ce rôle sur le dos de manière tout à fait évidente.
Ou parce que la société vous y avait préparé durant ce laps de temps ?
Alors, en fait, c'est les deux. C'est la société et donc l'information qui arrivait jusqu'à moi. Et c'est également que depuis la maladie et la mort de Léonard, je suis devenue une professionnelle de ce sujet de l'aidance et des ruptures de vie. Donc, je connais très bien enfin, avant même que Calix soit malade, je connaissais évidemment très bien ce sujet de l'aidance. Et ce livre, La ligne de crête des aidants, a été commencé avant la maladie de Calix. Ce n'est pas du tout la maladie de Calix qui m'a fait l'écrire. Absolument pas. Le contrat a été signé avec, avec l'éditeur avant qu'il soit malade. Donc c'est, voilà, c'est pour ça qu'en effet, de manière assez ironique, je dis, ben, voilà, il me restait une case à cocher et ça y est, c'est fait.
Vous avez aussi, donc vous le disiez, accompagné votre papa. J'aimerais qu'on prenne une seconde pour ça. En fait, comment est-ce qu'on fait quand deux deuils ou deux combats comme ça arrivent dans votre vie au même moment ?
Alors ça, c'est vraiment aussi une très bonne question. C'est compliqué de faire deux deuils en même temps. Donc le deuil, concrètement pour moi, de mon papa et le deuil de la mobilité et d'une santé pour mon fils. Le deuil de mon papa, il a été un peu mis entre parenthèses, puisque
dans une autre urgence.
Je suis toujours dans une autre urgence, tout à fait. Et voilà, ça va se faire à un autre rythme,
parce de manière différente. Entre parenthèses, dans des choses aussi importantes de la vie, c'est en sourdine, mais ça revient. Et il faut que ça revienne d'ailleurs, parce faut le faire ce travail aussi. Mais quelque part, vous l'avez mis dans un, vous l'avez rangé quelque part en attendant.
Et oui, parce que j'ai revêtu l'armure de combattante de la maman lionne pour accompagner mon fils et que c'était ça l'urgence et que ça l'est toujours.
Valérie Daubigny, c'est intéressant, hein, c'est incroyable quand des choses vous frappent comme ça tout au même moment. La foudre de foi est tombée sur la famille d'Axel Hubert, le deuil du papa alors qu'elle apprend la maladie de son fils. Vous avez peut-être une réaction.
En fait, ce que je me disais, surtout à travers votre dernière question, c'est que nous ne cloisonnons pas dans nos vies. Donc oui, vous perdez votre père, Axel, et puis vous apprenez cette maladie si grave de Calixte. Et je me disais, mais peut-être parce que, et détrompez-moi, mais parfois une épreuve nourrit l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on voit ça dans un regard de foi, on peut se dire, ben voilà, mon père est parti, il avait un grand âge. Ce deuil, vous pensez peut-être ne pas l'avoir fait, mais peut-être qu'il se fait au fond par tout ce que vous vivez dans la communion des saints avec votre père parti, mais qui peut-être est une aide, est encore là, vous a donné à vous des forces pour vivre les épreuves. Vous voyez, je me disais ça. C'est en fait une question, Axel. Merci, Clara, je réponds par une question.
Oui. Écoutez, je crois que ce qui aujourd'hui me continue à me porter, à me toucher peut-être plus, c'est la mort de mon mari, donc il y a 13 ans. Et donc ça, c'est un deuil qui est fait, même si la cicatrice, elle est évidemment toujours là. Et de toute façon, il n'est pas question de parler de deuil sans parler de cicatrice. Et évidemment qu'il y a des moments où des choses viennent résonner sur cette cicatrice, viennent toucher à nouveau cette cicatrice. Mais pour moi, ce sont les grosses épreuves de ma vie, c'est plutôt celle-ci, la maladie et la mort de mon mari, très jeune, et la maladie et le handicap de mon fils. Et en effet, la mort de mon papa, alors qu'il était dans un âge avancé et canonique pour mourir, on ne compare pas les deuils, mais c'est sûr que ce n'est quand même pas du tout la même chose.
Alors, Calix avait 15 ans au moment du diagnostic, donc en 2024. C'est un âge où on commence un peu, au moins dans la tête, à partir. Au lieu de ça, il revient. Il revient de façon très physique, très présente. Et comment ce diagnostic a-t-il redessiné votre relation à vous, entre vous, mère-fils ?
Alors peut-être déjà un mot sur la relation à moi-même. J'ai envie de commencer par là et de dire que lorsque ce diagnostic est fait, donc ce fameux 4 juillet 2024, eh bien, voilà, vous avez dit tout à l'heure, on croit que la foudre ne tombe pas deux fois au même endroit, alors que c'est finalement ce qu'on a, on a éprouvé le contraire. J'ai un sentiment.
Excusez-moi à nos auditeurs, qui a aucune génétique là-dedans.
Oui, voilà, il s'agit de deux maladies extrêmement rares et que donc la probabilité d'être touché par les deux dans une famille était, j'ai interrogé le chat, de 1 sur, entre 1 et 1 milliard, et 1 et 5 milliards. Voilà, donc extrêmement, une probabilité très, 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 de l'ordre d'epsilon. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment quelque chose qui s'apparente à du dégoût. Pas vraiment de la colère, mais plutôt du dégoût. C'est, oh, vous savez, je suis deg, comme disent les jeunes, là, les ados. Ça, ça a été quelque chose de très fort. Et la relation à mon ado de 15 ans, bien sûr, elle change parce qu'elle a changé. À 15 ans, on peut être parfois dans une mère extrêmement... Enfin, moi, je suis une mère présente et vigilante pour mes enfants. Et puis, à 15 ans, on a besoin de lâcher un peu du lest, bien évidemment. On a besoin d'espace. Et donc, aujourd'hui, je suis sur cette ligne de crête pour donner cet espace à mon ado qui en a toujours besoin. Et en même temps...
Ça
reste un adolescent qui a traversé, là, c'est derrière lui, la maladie, il est en rémission. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle à donner aussi à nos auditeurs. Néanmoins, comme il s'agissait d'un cancer orthopédique, aujourd'hui, il a des très grosses séquelles et il est en fauteuil. Et donc, j'ai besoin, lui comme moi, avons besoin de que je garde cette vigilance et cet accompagnement. Donc, il y a en effet à ajuster la distance qui dit l'amour du lien.
À un âge où on a envie de s'envoler de ses parents. Alors, le mot aidant, la ligne de crête, donc je rappelle votre livre qui sort le 15 mai prochain aux éditions MAM, hein, la ligne de crête des aidants, tenir sans se perdre. Le sous-titre est important aussi aux éditions MAM. Je l'ai dit en introduction, 8 à 11 millions d'aidants en France, hein, je reviens sur ce chiffre qui est absolument phénoménal. Un Français sur 4 d'ici 2030, un aidant sur 2 ne se reconnaît pas comme tel. Pourquoi ce déni ? On y a en partie répondu, mais je pense que si dans la rue on fait un micro-trottoir, les gens vous regarderont avec des grands yeux ronds quand vous leur direz qu'il y a 8 à 11 millions d'aidants en France. Il y a un déni quelque part, voulu ou pas d'ailleurs.
Oui, il y a un déni, et c'est d'ailleurs ce déni qui fait que, pour moi, le chiffre le plus effrayant, même s'il est aussi à manier un peu avec des pincettes, c'est celui de 1 aidant sur 3 qui décède avant son aidé. Et donc ce livre, il a aussi pour objet de sortir, de donner des informations et de pouvoir permettre que les mains se tendent auprès des aidants. Les patients, on les aide, on les accompagne, mais les aidants, la plupart du temps, comme on considère que c'est normal d'être présent pour sa famille et même d'être impacté, on ne faisait pas grand-chose pour eux. Alors qu'ils sont véritablement les sentinelles de l'ombre, de l'invisible et des piliers de la société. On l'a dit tout à l'heure, il faut économiser des milliards à l'État. On a besoin de prendre soin des aidants.
Dans une société qui vieillit aussi.
Bien sûr, on a besoin de leur donner ces cordées qui vont leur permettre d'escalader leur Everest et d'avancer pas après pas, jour après jour, pour vivre ce qu'ils ont à vivre et le vivre le mieux possible.
Alors, dans votre livre, je le dis aussi aux auditeurs de Radio Courtoisie, du Libre Journal de la Liberté de Penser, vous, et ce qui est très bien, vous faites des petits encarts avec des témoignages. Donc, c'est très vivant comme livre, parce qu'on s'identifie aux témoignages. Et là, vous citez Nicolas, 60 ans, qui dit, je le cite, « Je me sens une personne aimante et pas du tout aidante. Ce refus du mot, est-ce qu'il vous interpelle ? Est-ce qu'il vous paraît juste ou inquiétant ?»
Oh, je me prononce pas en fait là-dessus. Je fais pas de jugement sur le témoignage de Nicolas. J'accueille et enfin je trouve que c'est tout à fait intéressant.
Quand il oppose un peu les deux.
Oui,
quand on
est aidant, la plupart du temps on est aimant aussi. Ça sera la liberté de chacun de prendre ou de ne pas prendre le mot. En tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est de la responsabilité de chacun d'agir, encore une fois, pour prendre soin de son aidé, donc quand on est un aidant, et c'est de la responsabilité de tout l'entourage des aidants de venir en aide aux aidants.
On parle d'amour, c'est pas une notion qui est forcément facile. On peut prendre l'exemple, par exemple, de parents qui vieillissent et de fratrie. Ça peut prendre en charge un père ou une mère qui est malade et qui a besoin d'attention, donc aidant de ses parents. C'est aussi au sein d'une fratrie révéler parfois des souffrances, des traumatismes, des difficultés qu'on a traînées toute sa vie. Et à partir de ce moment-là, peuvent se révéler même des conflits, hein, j'ose presque le mot, dans la fratrie. ça a un impact, ça réveille des choses. C'est compliqué à vivre, ça aussi. C'est pas forcément tous les frères et sœurs ne vont pas réagir de la même façon. Mmh. C'est même très souvent le cas. Il y en a un qui va prendre le. Faut que je le dise en français, le pas, j'avais envie de dire le leadership, le pas, qui va devenir l'aidant principal, on va dire. Voilà. Les autres vont se reposer sur lui, ou on va lui dire, bah, toi, tu as plus d'argent, c'est normal que tu le fasses. Enfin, des choses vont ressortir comme ça. Je pense que c'est très fréquent, ça.
Oui, c'est extrêmement fréquent. C'est un énorme sujet, les danses, l'accompagnement, enfin, les danses auprès de ses parents âgés et vieillissants et tombant malade. Et en effet, lorsqu'il y a des fratries, c'est-à-dire lorsque l'on n'est pas enfant unique de ce parent vieillissant ou malade, il y a beaucoup de tensions qui peuvent se jouer ou pas. Hein, évidemment, l'accompagnement peut aussi raffermir un amour et des liens très forts entre les frères et sœurs. Mais voilà, ce n'est pas toujours le cas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des blessures de l'enfance qui vont se jouer et qui vont se rejouer à l'âge adulte. Ah bah toi, de toute façon, t'as toujours été le préféré.
Vas-y, aide.
Voilà, donc c'est toi. Bah écoute, c'est toi qui fais.
C'est ton
travail. C'est ton travail, mais il peut aussi avoir beaucoup d'amour dans cette parole-là. C'est-à-dire qu'un enfant qui, enfin un adulte, imaginons un adulte de 60 ans, peut aussi dire, bah écoute, je te laisse prendre le pas, la main dans l'accompagnement des parents, puisque les parents sont mieux avec toi, puisque tu as été le préféré et que tu es encore le préféré. Et donc, vous voyez, il faut parfois prendre du recul par rapport à l'intention qui est celle de tous ces aidants. Donc, parfois, il y a beaucoup de souffrance. Souvent il y a beaucoup de souffrance et des décisions qui sont difficiles à prendre. On est en permanence sur cette ligne de crête. Est-ce qu'on maintient les parents à la maison? Est-ce qu'on les prend chez nous? Est-ce qu'on embauche des aides à domicile de jour, de nuit, et puis combien d'heures? Est-ce que on va trouver une solution de répit de manière provisoire? Est-ce qu'on va trouver une solution de manière définitive en plaçant les parents dans un EHPAD ou simili? Et puis, entre frères et sœurs, on peut se reprocher, bah, toi, t'en fais trop, et puis toi, t'en fais pas assez. Et puis, toi, tu trouves toujours le moyen de te défiler. Et donc, bien évidemment, les ressources à ces tensions dans les fratries, elles vont être... d'essayer de s'ajuster dans la communication et d'essayer de comprendre quels sont les besoins de chacun pour que tout le monde ressorte gagnant. Mais c'est, bien sûr, c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile si on n'a pas appris à apprendre et à communiquer en parlant en jeu et en parlant de ses besoins. Donc, autrement dit, en parlant avec un mode de CNV, de communication non violente.
Oui, et dont vous parlez aussi. Alors, on va faire une petite pause musicale. Pour nos amis auditeurs de Radio Courtoisie, sachez que c'est Valérie Daubigny et Axel Hubert qui ont choisi les chansons qui vont émailler notre émission. Et je pense que là, on va pouvoir entendre Charles Aznavour, La Mama, qui parle aussi de notre sujet. Merci à vous.
Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. La réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là, maman. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras, en lui chantant Ave Maria, Ave Maria. souvenirs. Autour de toi, toi, la maman, il y a tant de larmes et de sourires. À travers toi, toi, la maman. Et tous les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil. Elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que s'entasse pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveillée, elle va mourir là. Après une bonne journée, pour qu'il sourit en s'endormant. Ave Maria. Y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi, la maman. Y a tant de larmes et de sourires à travers toi. Jamais, 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 tu nous quitteras.
Magnifique Charles Aznavour, La Mama, on s'en lasse pas. Merci à Valérie Daubigny et Axel Hubert d'avoir choisi cette magnifique chanson pour rythmer un peu notre émission et nous laisser aussi... un peu d'oxygène dans cette musique magnifique. Alors on va parler d'une notion, Axel Hubert, dans votre livre, je rappelle aux auditeurs, La ligne de crête des aidants tenir sans se perdre, la notion de deuil blanc, Valérie Daubigny également, hein, si vous voulez intervenir sur ce sujet, de ce concept de deuil blanc qui a été inventé par Rosette Poletti, c'est ça, en 1992. Oui. Le deuil de quelqu'un, mais qui est encore là, en fait, mais plus tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer avec vos mots ce qu'il recouvre et peut-être, Valérie, après enchaîner avec vous, soit votre expérience personnelle, soit un accompagnement à travers des livres qui peuvent nous en parler et nous aider.
Ma Clara, vous l'avez très bien dit, le deuil blanc, c'est cette notion de la perte que l'on doit faire de quelqu'un qui est là sans l'être tout à fait. Donc c'est une expression qui a été inventée il y a une quarantaine d'années. Pour moi, il est intéressant de l'extrapoler, cette notion de deuil blanc, pas seulement pour les cas de maladies neurodégénératives, ce qui était vraiment le cas quand Rosette Poletti a employé cette expression au départ, mais donc de l'extrapoler en fait à toute situation qui va faire qu'on a une perte, un renoncement à faire. Et donc, une acceptation de cette perte à donner. Donc, pour tout, en fait, c'est l'idée que dans tout deuil, c'est l'idée que dans toute perte, eh bien, on va passer par ce tsunami émotionnel. On va être impacté dans ses émotions, mais aussi dans sa chair, mais aussi dans son intelligence. Par exemple, on peut avoir du mal à se concentrer, on peut avoir une tendance à procrastiner. Donc on est impacté émotionnellement, quel que soit l'objet ou le sujet de la perte. Donc ça peut, même si on divorce, si on perd une maison, hein, on est toujours dans ce deuil blanc.
Une rupture de vie aussi.
Une rupture de vie, voilà. Ou imaginez quelqu'un qui doit perdre le lien à sa famille suite à des abus dans une famille. On voit aussi beaucoup ça. Il y a non seulement le deuil d'une intimité qui a été violée, forcée, mais il y a aussi souvent, comme tout est systémique, eh bien, la perte du lien à toute une famille. Donc à chaque fois qu'on est dans une perte, On peut dire qu'on est dans un deuil blanc puisqu'on va être impacté émotionnellement dans son intelligence, on va être impacté physiquement dans sa chair, on peut être fatigué bien sûr, mais on peut aussi développer différents symptômes et syndromes qui vont amener à différentes pathologies. On peut aussi être impacté d'un point de vue spirituel puisqu'on va être face à ce vide et à ce sentiment de perte de sens. Je ne sais plus pourquoi je vis et je ne sais pas pourquoi je dois subir ce que je suis en train de subir.
Et sans que pour autant les mécanismes du deuil dont vous parliez dans votre autre livre, hein, vous étiez venu en expliquer, se mettent en place, puisque ce n'est pas un vrai, entre guillemets, un deuil. Donc en fait, les mécanismes que vous aviez cités, j'avais retenu, moi, je négocie, c'est ça, je marchande, ou la colère, ou ça, il y a quand même certains points communs avec le deuil blanc.
Ah oui, il y a beaucoup de points communs. En fait, les mécanismes sont les mêmes.
Presque les mêmes,
ouais.
Même, oui. Les, mêmes,
les mécanismes sont les mêmes. Oui. Il va y avoir des choses qui vont changer. Quand on est en deuil au sens propre, suite à un décès, on a peut-être moins de charge mentale, bon, sauf les quelques mois qui suivent un décès à cause du poids administratif, surtout en France.
Oui.
Mais on n'a pas la charge mentale d'un aidant, par exemple, qui doit être sur tous les fronts. Mmh. Donc ça, c'est une grande différence. Mais sinon, on est... Vraiment, ce qui caractérise les mécanismes d'une perte et donc d'un deuil, c'est un impact émotionnel, intellectuel, physique ou physiologique, relationnel, puisque en fait son comportement va changer, et spirituel. Et quand je dis comportement, c'est que en fait, quand on souffre, la souffrance va vous isoler des autres.
Voilà.
Elle va faire que vous êtes souvent écorché vif et que vous allez vous sentir rejeté. À tort ou à raison, parce que on pourrait parler des larmes, de la tristesse. Quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est triste, eh bien, ça peut faire peur. Donc, on va essayer de remettre un peu l'église au milieu du village, hein, sur ce sujet, j'ai envie de dire. Mais on va aussi être impacté dans le sens où on va rejeter les autres quand on souffre. Donc, on se sent rejeté et on rejette les autres. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la perte.
Alors, Valérie Domine, le deuil blanc et les larmes, ça vous évoque quoi?
Eh bien, j'essaye de relier ça à mon expérience à travers les livres jeunesse et essayer de voir en quoi les livres, d'abord, peuvent aider les enfants à traverser ces deuils, parce qu'eux aussi les traversent. Ils les traversent à travers nous, les parents. Mettons, la situation la plus classique, c'est la perte des parents, ou la perte d'autonomie des parents, ou la perte d'esprit des parents. Nos parents qui étaient rassurants, qui nous ont élevés, qui nous ont appris, qui nous ont transmis, et qui soudain ont besoin de nous comme des enfants. Nos enfants observent cela, et eux aussi font de grands pas. On dit que le livre développe l'empathie, ça je le crois sincèrement, profondément. D'abord parce qu'on l'expérimente nous-mêmes, et puis on l'expérimente auprès des enfants, et on voit bien qu'on, dans une société où les enfants lisent beaucoup moins, donc se projettent moins dans d'autres histoires, dans des tragédies parfois, mais ils voient un héros traverser des drames, ces enfants qui se coupent de cet apport-là sont beaucoup moins préparés lorsque l'épreuve arrive. Donc véritablement, oui, le livre jeunesse développe l'empathie et prépare tout cela. Ça, c'est vraiment un point que je voulais
lisez,
dire.
Donc lisez, vous faites lire vos enfants.
Lisez, et oui, des histoires qui peuvent être des drames. On n'est pas là dans la lecture à chercher des livres qui ne sont que roses. Au contraire, ça permet d'expérimenter à travers quelqu'un d'autre, donc de manière moins directe, mais néanmoins forte. Si le livre est bien fait, on entre véritablement dans la peau de quelqu'un, et de changer ainsi de regard, de lunettes, eh bien, ça nous prépare aux épreuves. Et ce que je me disais en vous écoutant, Axel, c'est que même dans la grande faiblesse, on peut encore transmettre. Et ça, je l'ai expérimenté la semaine dernière. Clara, vous m'aviez parlé de ce sujet pour cette émission. Il se trouve que j'étais dans une chambre d'hôpital de chirurgie orthopédique et surtout gériatrique, dans une chambre avec ma propre mère de 90 ans et une dame exceptionnelle. Je suis ravie de l'évoquer au micro de Radio Courtoisie. 97 ans, une petite dame de la campagne. On est là dans la Bourgogne profonde. Toutes les deux, sur leur lit, Vous voyez, d'une certaine manière, c'était comme un monument. J'avais là 97, 90, tout ce qu'elles avaient traversé, tout ce qu'elles avaient donné, etc. Et elles étaient toutes les deux tombées à l'arrêt, vous voyez, paf, et en se disant, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Et avec un peu de désespoir. On l'a évoqué, et je leur ai dit, mais voyez combien, toutes les deux, vous êtes encore en train de nous donner. Nous sommes tous là, tous ceux qui traversent cette chambre, personnel hospitalier, vos amis, vos enfants, ils vous regardent traverser l'épreuve et vous donnent encore. Et j'ai vu que les petites dames, oui, c'est... Bon, parce qu'on est dans l'être profond. C'est le passage de la flamme. Ça, je trouve que c'est beau. C'est pas idéaliste de dire ça dans l'épreuve. Bah, vous voyez, Axel, vous, ces épreuves que vous avez traversées, en plus, vous avez cette simplicité, c'est peut-être un besoin que vous avez, mais de partager, vous écrivez, vous avez ce groupe WhatsApp avec beaucoup d'amis qui vous suivent. On vous regarde traverser l'épreuve, Axel, et vous nous donnez beaucoup à travers tout ça aussi. Il y a de la transmission en tout, voilà, c'est ça que je veux dire, et c'est beau. On est tous bien arrimés pour traverser.
Alors moi, je vais rebondir aussi sur ce que vous dites, Valérie. Oui, ça vient résonner sur le fait que c'est, je crois, important et bienfaisant de permettre aux patients de donner quelque chose. Donc là, je vous rejoins évidemment. Et aussi de permettre aux aidants de donner quelque chose. Parce que là, vous évoquiez avec votre maman et cette autre vieille dame de 97 ans, des patientes. Mais les aidants aussi ont besoin de donner quelque chose. Donc, on a besoin de les entourer et de leur donner quelque chose. Donc, eux, ça veut dire qu'ils ont besoin d'accepter, de recevoir et de se laisser aider. Et c'est toujours mon thème si cher qui est de se laisser aimer. Et ils ont besoin aussi de montrer qu'ils ne sont pas toujours ceux qui reçoivent et qu'eux aussi peuvent donner quelque chose et se rendre utile. Donc qu'on soit patient ou qu'on soit aidant, on a besoin d'apprendre à recevoir et d'apprendre à donner, les deux ensemble.
Alors Axel, vous reprenez souvent une phrase qui vous aidait, moi qui m'avait marqué quand j'avais lu votre premier livre, quand Léonard était malade, il disait j'ai beaucoup souffert de mots qui ne me sont jamais arrivés. Aujourd'hui, cette phrase, je pense que vous l'avez toujours en vous, elle vous habite aussi avec Calixte.
Oui. Oui, tout à fait. C'est une invitation à vivre le présent et à ne pas projeter des inquiétudes qui peuvent s'enraciner dans une expérience et ou une légitimité ou pas. C'est, par exemple, si je imaginons que je m'inquiète de la récidive du cancer pour mon fils, cette récidive, elle peut être enracinée dans quelque chose qui est possible, donc dans une expérience du passé et d'autres patients. Mais ça n'est que du domaine de la pensée, en fait, puisque aujourd'hui, mon fils, il est en rémission. Et donc le fait de m'arrimer à ce présent, à ce quotidien où Dieu se donne et où la grâce se donne, hein, c'est le saint Paul. Ma grâce te suffit. C'est quelque chose qui va être une ressource clé. Et il faut savoir que selon des recherches faites par des psychologues américains comme Robert Lehi, dans 85% des cas, nous nous inquiétons de choses qui n'arriveront jamais. Sur les 15% qui restent, il y a 10% de cas où on est un peu dans un entre-deux, on peut être impacté par quelque chose, et dans 5%, ça pourra arriver. Voilà, donc en effet, ça nous invite à nous détendre et à être dans la confiance.
Dans nos plus grandes catastrophes de vie, on n'y avait même pas pensé.
Exactement.
Pour reprendre à contrario votre raisonnement avec une pointe d'humour, parce que vous avez raison, Valérie Daubigny, c'est pas très rassurant. Alors, il y a une émotion qui revient à Axel comme un refrain tout au long de ce livre, c'est la culpabilité. La culpabilité de ne pas en faire assez, de mal faire, de s'autoriser un moment pour soi, parfois même la culpabilité d'être en bonne santé quand l'autre ne l'est plus. Le savoir dire non, stop, vous le décrivez, ce rendez-vous médical là, non, j'y suis pas allée parce que, par exemple, pour votre fils. Et vous écrivez une phrase qui m'a arrêtée parce qu'elle est presque dérangeante. Vous écrivez « La culpabilité, c'est une illusion de puissance ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous vouliez dire par là.
Alors, la culpabilité, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui va arriver à pratiquement toutes les personnes qui vont traverser une rupture de vie. Alors, la culpabilité, elle peut venir d'une faute réelle. Et à ce moment-là, on n'aura pas attendu cette émission pour chercher comment réparer ou comment demander pardon. Et puis, la plupart du temps, elle va venir alors qu'il n'y a pas de faute réelle. Je rappelle que culpa, du mot culpabilité, ça veut dire la faute. Et la plupart du temps, on va éprouver une culpabilité de ce qui s'est passé, sur ce qui s'est passé, comme si on aurait pu l'éviter. Donc, vous voyez, c'est ce petit vélo chacal qui tourne dans la tête, qui nous fait nous dire « Ah bah si j'avais su, j'aurais dû ou je n'aurais pas dû, j'aurais pu ou je n'aurais et j'ai pas réussi. » Et donc, on se flagelle et on se met en position de juge impitoyable.
Envers nous-mêmes.
Et se sortir de la culpabilité, je crois que ça va passer par le fait d'essayer de regarder les racines de cette culpabilité, et en effet qui sont souvent une illusion de puissance, ou en tout cas un refus de n'être que très humain.
Oui.
Et donc voilà, il y a toute cette ambivalence, à la fois je suis humaine et à la fois j'aurais voulu être omnisciente. Et donc voilà, pour vous donner un exemple très concret, moi, j'aurais pu emmener mon fils plutôt chez le médecin et faire cette IRM. Si j'avais su qu'il y avait ce diagnostic de cancer qui allait arriver, j'aurais emmené mon fils dans la seconde. Mais comme je n'ai pas su, je ne l'ai pas emmené. Et donc, pourquoi je n'ai pas su ? Parce que je ne suis pas omnisciente. Donc, le fait d'accepter que je ne suis pas omnisciente, et donc que je ne suis pas Dieu ou Superman, si vous voulez mettre le mot de Superman, me permet de lâcher ma culpabilité. Donc voilà, personnellement, j'ai du coup, je crois, la chance de ne pas vivre cette culpabilité-là sur ce qu'il s'est passé. Ça ne veut pas dire que je n'en vis pas sur les émotions que je peux traverser, sur ma manière que je peux avoir de réagir. Évidemment, si j'ai un accès de fort agacement, je peux m'en culpabiliser après, parce qu'encore une fois, je suis très humaine, bien sûr. Mais voilà, de prendre du recul sur l'origine de cette culpabilité, de l'accueillir, de la regarder, et après de lui dire maintenant tu peux repartir, la culpabilité, j'ai compris le message et ce que tu voulais me dire, ça va être quelque chose de très aidant. Et l'autre chose peut-être sur la culpabilité à dire rapidement, c'est que souvent, c'est un mécanisme psychique de protection. En fait, on s'en prend, quand on se sent coupable, c'est qu'on s'en prend à soi-même. C'est la définition de la culpabilité. Et pourquoi on s'en prend à soi-même ? Parce qu'en fait, c'est plus facile de s'en prendre à soi-même, ou éventuellement à quelqu'un d'autre, que de reconnaître qu'on n'a pas de pouvoir sur la situation. Donc, c'est un remède au sentiment d'impuissance. Ça peut être ça. Vous voyez, dans une balance. D'un côté, j'ai la culpabilité qui répond à mon sentiment d'impuissance.
Or, la culpabilité, je pense qu'avec la peur, c'est ce qui épuise le plus les aidants.
Alors, moi, je n'ai jamais vu d'aidants ou de personnes en deuil ne pas vivre la culpabilité à un moment. Mmh. Voilà. Ils ne vont pas l'avoir sur tout. Personnellement, je ne l'ai donc pas sur tout. Mais à un moment, on la traverse.
Je me dis, vous êtes une maman avec un enfant hospitalisé depuis 2 ans. Je me mets à votre place, c'est est-ce qu'il faut que je sois à tous les rendez-vous, ou est-ce qu'il faut que je lui apporte un repas plus équilibré à tel moment ? En fait, en plus, nous, Corvéa Blaswick, nous sommes mères, en tout cas notre génération, ça c'est sûr, il n'y a pas de limite. Puis la société nous a quand même mis aussi un grand fardeau de « on peut tout faire tout le temps ». On doit tout faire tout le temps. Donc, où est-ce que vous arrivez, vous, à vous mettre vos limites ? Je pense que c'est compliqué quand même, d'autant plus que votre enfant est malade. Déjà, en temps normal, la maman, on l'appelle et puis il faut qu'elle se coupe en quatre, qu'elle laisse tout tomber, qu'elle fonce et que c'est normal et que la société, de toute façon, nous attend comme ça. Vous, avec un enfant malade, c'est d'autant plus compliqué pour vous de mettre la limite.
D'où le titre de ligne de crête des aidants.
Oui.
Et de tenir sans se perdre. En effet, en fait, je crois qu'il faut comprendre que quand on est aidant, que ce soit d'un enfant, d'un conjoint ou d'un parent, voire d'un ami, oui, on est donc en permanence en quête d'un équilibre. Et donc, il nous faut comprendre que cet équilibre, il n'est pas figé. et que je peux le réajuster. Donc je peux décider quelque chose, prendre une décision et la remettre en cause le lendemain. Et je crois que c'est ça aussi la ressource, c'est de se donner cette souplesse. Je peux dire, bah, je vais aller par exemple visiter mon aidé tous les jours et puis le lendemain dire, bah, non, en fait, je vais y aller qu'un jour sur deux et puis le surlendemain qu'un jour sur trois. Et puis la situation, la pathologie peut évoluer et du coup, je vais revenir en arrière. Je vais dire, bah, non, à nouveau, je reviens tous les jours.
Cette flexibilité.
Voilà, exactement.
Un petit bout d'oxygène.
Et aller chercher en fait la sagesse de discerner. Et vous savez, c'est aussi cette phrase de Marc Aurèle, hein, Seigneur, donne-moi la sagesse de discerner de ce qui dépend de moi et de ce qui dépend de l'autre. Qu'est-ce que moi je peux faire? Comment je peux exercer ma liberté à ce moment-là? Et demain, ça ne sera pas la même chose.
Valérie Daubigny.
Oui, je pense aussi avec ce mot aidant qui est apparu et donc toute la notion qui est reconnue, sur laquelle on a mis des mots. Il y a également des organismes, des personnes qui bénévolement, par exemple, je pense à Voisins et Soins, sont des personnes qui viennent aider les aidants. Et vous pouvez appeler en disant « je n'en peux plus ». Ça, c'est nouveau aussi, Axel Hubert, c'est quelque chose que vous avez expérimenté, que vous soutenez.
Alors, c'est une cordée, exactement. Mmh. Et donc, quand on est aidant, on a vraiment besoin de s'entourer des bonnes cordées. Voisins et Soins, c'est une association qui est absolument magnifique et qui, effectivement, permet de venir à domicile en aide aux patients et aux aidants. Et il y a d'autres associations et à chacun d'essayer d'aller trouver celles qui seront les plus pertinentes dans son cas. Personnellement, oui, bien sûr que je fais appel à des personnes pour m'entourer, des amis, des proches. Ça peut être d'aller, vous parliez de nourriture tout à l'heure, d'aller apporter un petit plat à mon fils, d'aller le visiter, d'aller
faire un bricolage, d'aller qui peut faciliter votre vie.
Exactement, comme il y a quelques jours, un ami est venu bricoler la rampe d'accès pour mon fils et je suis évidemment dans une gratitude profonde pour ça.
Mais vous avez osé demander.
Ouais.
Ah bah oui, non mais en fait on peut pas s'en sortir seul, donc il y a vraiment
parce que c'est pas simple.
C'est d'accepter ses limites et sa fragilité, sa vulnérabilité, de laisser rentrer quelqu'un chez soi. Et donc là aussi, on est sur une ligne de crête. Hein. À quel moment je dis oui à l'aide et à quel moment je dis non s'il y a une tentative d'intrusion de quelqu'un qui peut avoir un petit syndrome de sauveur. Ça, c'est aussi quelque chose que l'on peut rencontrer sur le chemin de l'aidance. Donc, prendre du recul, hein, vous avez parlé tout à l'heure, Valérie Daubigny, du fait de se focusser ou de se défocusser. Oui, je crois que c'est vraiment avec son intelligence et sa volonté d'examiner une situation et d'essayer de prendre du recul. Et puis, parfois, on a besoin d'être accompagné parce qu'on n'y arrive pas soi-même. Et d'où l'importance d'aller voir un coach ou d'aller voir un thérapeute ou d'aller trouver la bonne amie qui aura l'oreille attentive et aidera à la prise de recul.
Et pour pouvoir le faire, il faut avoir les mots. Je reviens à ça.
Oui, bien sûr.
Vous n'avez pas les mots, vous êtes submergé en fait par l'émotion, par le flou, par le noir. Et là aussi, dans la transmission, dans l'éducation, tous ces mots que l'on donne à nos enfants, aux jeunes, pour qualifier leurs émotions, les reconnaître, les qualifier, je ne peux pas dire autrement, sont de grandes aides. Dans le deuil pur, il y a pas mal de livres aussi qui peuvent aider des parents. Je les renvoie, si vous le permettez, Clara, au site 123loisirs.com.
Tout à fait.
Sur lequel, dans la rubrique deuil, handicap, il y a pour tous les âges des livres que nous avons sélectionnés, qui sont parfois des outils, véritables outils. Hein. Je pense par exemple à Prune et Séraphin ont peur de la mort. Vous le connaissez peut-être,
oui.
C'est chez votre éditeur MAM. Prune et Séraphin ont peur de la mort. On met des mots sur le deuil, sur la Toussaint, sur la tombe, etc. Ce qui est très bien. Ça peut aider des parents. On est parfois, on n'ose pas en fait. Hein. On a peur en évoquant la chose, de la faire survenir parfois même. Il y a une espèce
de... Oui, il y a une petite croyance magique, en effet.
Il y a un très, très bon livre qui vient de sortir à nouveau. Il était paru en 1996. Il vient de paraître à nouveau début avril. Il s'appelle « Quelqu'un que tu aimais est mort ». Vous le connaissez aussi,
oui.
Axel.
Oui.
Et vous êtes d'accord avec moi. C'est pour les 6-7 ans à peu près, mais ça peut aider aussi pour les plus grands.
Oui, je suis évidemment d'accord. Puis je pense que... Quand on accompagne un enfant qui vit un deuil, au sens propre ou au sens figuré, hein, ça peut être sa maman qui est malade, de lui proposer de passer par le livre peut permettre d'avoir une certaine distance, comme on peut aussi proposer de passer par le dessin ou par des objets symboliques dans nos cabinets de coaching et thérapie.
C'est un peu décentré et oui. Moins intrusif d'une certaine façon.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui.
C'est très bon le livre. Et puis le parent qui va lire le livre va en faire son miel lui aussi. Tout ça, là, il y a de la transmission. Enfin bref, vous trouverez pour tous les âges sur le site de quoi nourrir selon vos besoins. Il y a aussi des livres pour les grands. Écoute le Rossignol. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre chez Castelmore Éditions. Il est paru en mai 2017. Il est excellent. Il parle du deuil, de la dépression profonde. Il n'est jamais morbide et surtout, c'est une leçon de courage et d'amour. Il y a des témoignages. C'est vrai que vos livres, Axel Hubert, sont des bouées, je pense aussi, pour tous ceux qui traversent le deuil d'une manière ou d'une autre.
Et ça donne du sens.
Vous devez avoir des témoignages en retour extraordinaires.
Oui, et je ressens une profonde gratitude pour ceux qui me partagent ces témoignages, bien sûr. Et de voir que mon épreuve peut aider et que de témoigner de mon épreuve et des ressources qui sont les miennes peut aider, ça contribue à donner du sens à ma propre épreuve.
Alors j'en profite pour dire aux auditeurs du Libre Journal et Liberté de Penser que cette émission est enregistrée, mais que si vous voulez réagir, évidemment, vous m'envoyez ou à Radio Courtoisie toutes vos réactions et je les transmettrai à Valérie Daubigny ou à Axel Hubert. Alors on va faire une deuxième petite pause musicale et on va écouter, j'ai trouvé aussi que ça ressemblait à notre thème, Jean-Jacques Goldman.
Yeah. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci, chers auditeurs de Radio Courtoisie, de votre fidélité, particulièrement les fidèles du Libre Journal de la Liberté de Penser. Alors, je reçois aujourd'hui Axel Hubert pour un livre qui sort le 15 mai aux éditions MAM et qui s'appelle La ligne de crête des aidants, tenir sans se perdre. Et Valérie Daubigny, que nos auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, elle est de l'autre côté du micro aujourd'hui.
C'est un plaisir.
Merci de votre présence, Valérie. Et vous êtes également critique littéraire jeunesse. Et on va tout retrouver sur notre site. Vous avez cité quelques ouvrages.
Voilà, sur votre site, je pense que en allant directement sur 123loisirs.com et en cherchant avec le moteur de recherche deuil, handicap, etc., selon les tranches d'âge, nos auditeurs trouveront des aides. Voilà, des aides, des fenêtres, des ouvertures, des
dans
envols.
Dans les livres que nous aimons tant, dans le Libre Journal de la Liberté de Penser. Alors, dernier bloc de réflexion, Axel Hubert, autour de votre livre. La relation à l'aider et à l'entourage. Je vais vous dire, quand j'ai lu votre livre, ce week-end, vous saurez tout, il y a tout un chapitre, je vais vulgariser, c'est aussi comme ça que je l'ai ressenti, pardon si c'était un peu à côté, mais rebondissez, vous le faites très bien, donc, qui dit un peu comment nous comporter, nous, personnes tiers extérieures, hein, ni aidés ni aidants, mais vos amis par exemple, avec les personnes aidantes. Et puis vous donnez surtout beaucoup de choses à ne pas faire, beaucoup de choses trappes.
Et beaucoup de choses à faire aussi.
Et beaucoup de choses à faire. Et ce qui fait qu'à la fin, je me suis dit, la prochaine fois que je vois Axel, je ne sais plus quoi lui dire. je plaisante évidemment. Mais c'est difficile. C'est difficile. Et pour vous, aidant, hein, j'élargis le débat, mais ça peut être très impactant, ça peut être heurtant, ça peut vous blesser en fait, tout simplement, et faire de la peine. Et donc, du coup, vous donnez des conseils, c'est ça que je veux dire à nos auditeurs, et j'espère qu'ils achèteront votre livre. C'est très concret. C'est un mode d'emploi quasiment de comment s'adresser à un aidant sans faire trop de gaffe, sans blesser, sans. Ou alors, le pire, sans changer de trottoir. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne savent pas gérer, en fait, et qui croient que le malheur, c'est contagieux, peut-être.
Oui, ça, c'est vrai aussi. J'essaie de donner des pistes de réflexion qui ne soient pas un jonctoir. J'espère que vous l'aurez,
réussi, hein,
que vous l'aurez pas vécu comme ça. Et ce que je dis aussi, c'est que, en fait, il s'agit d'une relation entre les aidants et leur entourage. Et donc, c'est la relation qui va être impactée. Et elle est impactée parce que des deux côtés, eh bien, on ne sait pas très bien comment faire et comment interagir. Il y a l'aidant qui souffre et puis il y a les autres qui souffrent de le voir souffrir. Donc, l'aidant, il peut être lui-même extrêmement maladroit et commettre ses maladresses d'amour. Lui aussi, comme l'entourage, va et peut commettre ses maladresses d'amour. Il ne s'agit pas de culpabiliser l'entourage des aidants, ou de culpabiliser les aidants, mais simplement de mettre en exergue des postures qui vont être à essayer d'éviter et d'essayer de privilégier, tout en sachant que, encore une fois, nous sommes tous humains et donc imparfaits, et que donc nous commettrons ces maladresses d'amour. Un jour ou l'autre, nous en avons commis, nous en commettrons. Donc de lire ce livre permettra peut-être d'en commettre un peu moins. Voilà. Et de prendre du recul vis-à-vis de ses propres.
Quitte à faire des erreurs.
Voilà, de ses propres
erreurs.
Parce
qu'en fait, si le cœur parle, oui. Et que la bienveillance, l'amour, l'amitié est là.
Et bien voilà, ça c'est.
Je pense que ça essuie pas mal de maladresses que vous avez dû entendre.
Totalement, totalement. Et justement, c'est dans les ressources que je mets dans le quatrième chapitre de ce livre, c'est de savoir discerner l'intention positive des gens qui peuvent commettre des maladresses. Mais au nom de quoi elles les commettent ? Eh bien, au nom d'une amitié, au nom d'un amour. Et voilà, d'une envie d'être en relation avec les aidants.
Alors, vous faites des typologies des proches.
Oui.
Ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, qui ratent un peu leur entourage de l'aidant. Je vais le dire, on va détendre. On parlait de l'humour. On a parlé des larmes, on a parlé de l'humour. L'humour, c'est quand même une sacrée arme contre tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Alors, vous parlez d'un touriste envahissant. Je vais les citer, puis vous reprenez ce que vous avez envie. De l'oracle, celui-là, il dramatise. Du détective, alors lui, il interroge sans fin. Voilà. Du randonneur éco-responsable, celui-là, c'est mon préféré, lui, il va donner des leçons. Donnez-nous un peu, juste en deux lignes, qui sont ces fameux proches des dents, ces typologies des proches, et lequel vous a le plus blessé ? C'est une question semi-légère. Hein.
Oh, je saurais pas répondre à qui m'a le plus blessée et puis
dans la typologie. Hein.
Heureusement, j'oublie les choses en fait. Donc voilà, avançant aussi en âge et étant en perte cognitive, moi aussi, voilà. Puisque
c'est
aidant,
bien ça du bon.
ça sauve.
Ça sauve et puis voilà, je dis les choses avec, j'espère, beaucoup d'humour et de tendresse, mais avec aussi beaucoup de vérité, puisque quand on parle avec des aidants, et donc moi dans mon cabinet de coaching et de thérapie, je reçois évidemment beaucoup d'aidants et de personnes en deuil qui racontent à quel point la relation elle peut être compliquée, elle peut s'être détériorée à la relation à tous leurs proches, leurs familles et leurs amis. Donc évidemment, on va travailler là-dessus. Et l'intérêt de ce livre, c'est de pouvoir mettre des mots sur certaines tentations qui peuvent être les nôtres, donc d'un côté ou de l'autre. De chercher à conseiller, par exemple, à trop conseiller, à vouloir absolument donner des solutions sans avoir écouté. En fait, cette partie-là de mon livre, elle est vraiment en écho à ce qu'on appelle l'écoute active, qui est un outil de Thomas Gordon et qui parle de barrage à la communication. Et donc, ces barrages à la communication, bah, ça peut être, par exemple, d'infantiliser. Donc, au nom d'une intention qui va être tout à fait positive, qui est de vouloir aider. Mais celui qui veut aider, alors qu'on ne l'a pas sollicité, il se place en situation de sauveur. Et pour peu qu'en plus il soit assez autoritaire et assez infantilisant ou assez moralisant, bah en réalité, il va compliquer le chemin de l'aidance au lieu de chercher à prendre sa part du fardeau de l'aidant qui est sur cette ligne de crête qui est sinueuse et donc sur une montagne qui est quand même très, très raide et escarpée. Il peut y avoir aussi beaucoup de jugements, beaucoup de comparaisons. Des petites phrases comme bon bah je te souhaite pas une bonne année
voilà, vous parlez de la fin d'année hein, ça c'est terrible les fins d'année quand on est dans votre situation,
les fins d'année, les vacances, voilà. Aussi tout simplement les amis qui vous envoient leurs photos de vacances sans prendre de vos nouvelles à vous qui n'avez pas de vacances, voilà, il suffit simplement d'avoir un petit mot. Je dis simplement, en fait, c'est pas du tout si simple. Hein. C'est compliqué de trouver la posture et la relation ajustée, ad hoc. Mais la plupart du temps, en fait, c'est pas tant les mots qui comptent que la manière dont ça va être dit. Donc tout le non-verbal et tout le parainverbal, en fait, qui va vraiment, vraiment être important.
Axel, je vous coupe. Est-ce que aussi la personne qui aide, la personne qui est à fond dans le soin de l'autre et qui est envahie par tout cela, est-ce que parfois, je prends un peu le contre-pied, elle n'a pas des attentes qui forcément vont être déçues? Elle va toujours trouver que la personne en face fait de travers. Elle va trop en parler, elle va faire comme si de rien n'était, etc. Je vous pose juste
la
question.
Très juste. C'est très pertinent de poser cette question-là. Ben, oui, bien sûr, les dents sont des gens qui sont imparfaits eux-mêmes, humains. Donc oui, ils peuvent avoir des attentes qui sont totalement déraisonnées, disproportionnées. Et donc on va essayer que les dents et son entourage prennent chacun son côté de l'écharpe relationnelle et puissent se parler et se dire les choses. De quoi est-ce que tu as besoin ? On revient à cette question du besoin. De quoi est-ce que tu as besoin aujourd'hui ? Parce qu'encore une fois, le aujourd'hui ne sera pas le même que demain et pas le même qu'hier. Et qu'est-ce que moi, je peux faire ? Et l'aidant va répondre. Il va répondre qu'il a besoin d'être écouté, d'avoir qu'on le prenne dans les bras ou pas. Surtout pas. Il va avoir besoin d'une aide matérielle, d'une aide logistique. Il va avoir besoin qu'on lui envoie un petit mot. L'autre jour, j'avais au téléphone quelqu'un qui travaille aussi sur la question des aidants et qui lance une application et qui disait en fait, moi, en tant qu'aidante, j'ai reçu très souvent des fleurs et des chocolats et donc c'est pas ça dont j'avais besoin. Et c'est pour ça que je lance une application pour pouvoir permettre une pluralité d'offres répondant à une pluralité de demandes des aidants. Et moi, je disais, moi, j'aime bien recevoir des fleurs et des chocolats.
Donc,
c'était très intéressant parce qu'elle, ce n'était pas son besoin. Moi, c'était...
C'est un peu les langages d'amour aussi. Hein.
Voilà,
on
tout à fait.
On en revient aux 5 langages
d'amour.
Exactement.
Et donc, on en revient à comment j'entre en relation, comment je communique avec toi. Et encore une fois, l'aidant lui-même peut être dans des attitudes de maladresse d'amour, mais j'ai envie de dire, il en a les circonstances atténuantes. Mmh. Et peut-être que, du coup, ça fait qu'il est plus, entre guillemets, prioritaire que l'autre qui, en tout cas, a priori, n'a pas de tel caillou dans sa chaussure.
Alors, il y a une phrase de votre belle-sœur que vous évoquez dans votre livre, Axel Huber, qui m'a marquée. Ce n'est pas parce que tu peux que tu dois.
Ah oui, ma chère belle-sœur.
Elle va en libérer quelques-uns.
Ma chère belle-sœur.
Ouais. Ce n'est pas parce que tu beaucoup. Peux que tu dois. Qu'est-ce que souvent on fait le lien entre parce que je peux, je dois le faire?
Bah, tout à fait. Là encore, ça invite à la sagesse du discernement. Qu'est-ce que j'accepte de continuer à porter? Qu'est-ce que je refuse de subir, de ne plus subir? Et donc, je vais examiner mon sac à dos avec toutes ces pierres que je porte et puis tous mes cailloux dans ma chaussure. Et je vais décider desquels je ne veux plus porter. Il y en a que je ne pourrais pas enlever. Bah, par exemple, la maladie. Je peux pas l'enlever. Je peux aller chez le médecin, je peux me soigner, je peux faire soigner mon proche, bien évidemment. Mais par exemple, la culpabilité, je peux décider de ne plus la prendre. L'injonction de tel proche à faire comme si ou comme ça, à ranger ma maison comme si ou comme ça, et voilà, bref, peu importe les dossiers, je peux décider de ne plus prendre. Donc je vais examiner caillou après caillou lesquels je garde et lesquels j'enlève. Voilà. Et en fait, trop souvent, on nie son propre pouvoir personnel sur des situations. Donc, encore une fois, on n'a pas de pouvoir sur la situation de la maladie et sur la mort, mais on a une liberté et un pouvoir d'action dans notre manière de réagir, de répondre à cette épreuve-là. Comment je vais décider de répondre à mon épreuve? Je garde quoi? J'enlève quoi? Je veux être en lien avec qui? Aujourd'hui, quelles sont mes priorités? C'est vraiment une question essentielle. Quelles sont mes priorités du moment et comment je peux me faire aider pour y répondre? Je vais regarder, je vais essayer de trouver la bonne adéquation entre ma priorité, mon besoin et la personne qui peut m'aider. Aujourd'hui, bah, ça peut être telle personne, un combo de 5 ou 10 personnes ou peu importe le nombre. Mais celle-là que je vais choisir et je vais faire en sorte que ça corresponde. Voilà, si j'ai besoin qu'on m'apporte un petit plat et que je demande à quelqu'un qui ne sait pas du tout cuisiner ou que ça va profondément ennuyer de cuisiner, c'est peut-être pas elle que je vais demander. Ou en tout cas, je vais lui laisser la liberté et l'opportunité de lui dire que non, elle ne sera pas la bonne personne pour répondre à ce besoin-là de cuisiner, mais qu'en revanche, elle pourrait, je ne sais pas moi, faire une conduite ou aller lire un livre à l'enfant dont la mère est malade ou à la patiente malade. Ou à la personne malade.
C'est quelque chose que j'avais envie de glisser dans notre émission, le fait de, lorsque la maladie ou la fatigue est trop grande pour lire, s'appuyer sur d'autres qui viennent vous lire des livres ou écouter
livres audio,
des livres.
Si
voilà,
pas.
Littérature audio, j'aime beaucoup le site littératureaudio.com. Il y a énormément de donneurs de voix très différents. Parfois assez typé, hein, ça devient un ami. Hein. Et voilà, ça c'est important aussi. Mais voilà, donner du temps de cette manière, merveilleux.
Alors, et le temps, c'est de l'amour.
Axel Huber, vous citez aussi beaucoup Peggy Bernanos, Claudel, parce que ce sont des références chrétiennes.
Et ce sont mes chéris.
Voilà, aussi. Vous parlez d'offrir vos souffrances. Pour quelqu'un qui n'a pas la chance, enfin, qui n'a pas la foi, mais qui nous écoute, ou qui s'en est en tout cas éloigné, qu'est-ce qui pourrait être transmis de votre expérience spirituelle?
Oulala, déjà que on marche un peu sur les pieds, sur la pointe des pieds et sur des œufs en parlant de offrir ses souffrances, parce que c'est quelque chose qui n'est pas entendable par tous. Et moi-même, il y a des moments où ça l'est plus ou moins, bien évidemment. Mais voilà, de se dire que peut-être que ce que l'on vit participe à son salut, ça peut être une idée ou une réalité qui peut vous toucher, que peut-être que ce que l'on vit, soit en tant que patient, soit en tant qu'aidant, peut participer au salut de quelqu'un d'autre, à condition que vous ouvriez les mains pour être dans le lâcher-prise et la confiance et pour poser ce oui qui est tellement difficile à dire et ce oui que vous allez poser un jour et que vous allez reprendre le lendemain, mais c'est bien normal et encore une fois, ça fait partie de notre condition très humaine. Mais voilà, voilà ce à quoi ça me fait penser.
Alors vous citez aussi Peggy avec la petite fille Espérance, hein, qu'est-ce que l'espérance, on peut parler d'espoir si on a moins l'optique spirituelle, c'est l'espérance, c'est pas l'optimisme, c'est pas le déni. Ça me fait penser à une première émission qu'on avait faite ensemble avec, on peut le citer, Bernard Noiraud-Nérin et puis aussi Pozzo di Borgo, j'ai oublié son Philippe. Prénom, Philippe, avec qui on avait fait une émission aussi sur l'espérance. Ouais. Hein, il nous avait aussi fait un superbe témoignage. L'espérance, en fait, ciel bleu derrière les nuages, c'est une distinction fine et belle entre l'optimisme et le déni, en fait.
C'est cette espérance que, bah, que le printemps revient toujours après l'hiver. C'est cette espérance que demain, ça ira mieux. Et puis peut-être que demain, ça ira pas mieux. Mais que, en tout cas, je peux avoir l'espérance de recevoir les grâces du présent. Et pour ceux qui ont connu ou qui récitent encore au quotidien ou pas l'acte d'espérance, eh bien, ça va résonner. Mon Dieu, j'espère fermement que vous nous donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous nous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Donc c'est espérance que demain ça aille mieux, espérance d'avoir les grâces du quotidien, et espérance que même si la mort est au bout du chemin, eh bien je, de mon chemin, quel que soit mon chemin, hein, encore une fois, hein, ça peut être un deuil suite à j'ai un ami qui m'a claqué la porte au nez et je souffre de ça, eh bien espérance que même si la mort est au bout du chemin, eh bien un jour on se retrouvera. Et on se retrouvera auprès de Dieu dans, dans une danse qui ne finira pas.
Valérie Daubigny.
J'ajouterais une chose qui me touche prodigieusement, j'ai envie de dire, et que j'ai encore expérimenté hier à l'enterrement d'un patriarche, chef de famille, avec toute la famille là, plus ou moins croyante, plus ou moins pratiquante. Et le témoignage apporté par ses enfants, par sa paroisse, de la foi de ce grand-père. Et je voyais leur douleur, et à chaque fois que j'assiste à des obsèques dans ce contexte-là, je me dis finalement, ce qui peut les aider aujourd'hui, c'est la foi, c'est l'espérance. Et ceci leur a été transmis précisément par celui qui est parti. En fait, je trouve que c'est vertigineux d'une certaine manière. C'est celui qui est parti qui a transmis l'espérance et la force de supporter son absence lorsqu'il n'est plus là. Ça, moi, je trouve ça, ça fortifie énormément, énormément ma foi.
Axelle Hubert, vous écrivez aussi, et je voulais le dire, je ne voudrais pas redevenir celle d'avant, je me préfère aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
On n'a pas connu celle d'avant, on n'a pas d'avis sur la question, Axelle Hubert.
Bah, c'est oui. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? En tout cas, que d'avoir vécu de telles épreuves est un chemin qui m'a transformée et qui m'a donné, je crois, plus un cœur de compassion. Bon, il y a encore du boulot, hein.
Tant mieux.
C'est sûr. Il y a encore de la patience à acquérir, bien sûr. Mais c'est un chemin qui permet de développer un cœur davantage d'écoute, enfin qui est davantage à l'écoute et qui est davantage dans la compassion et peut-être un peu plus aussi dans la patience. C'est aussi que mes priorités ont changé.
Voilà.
Et que aujourd'hui, je me suis recentrée sur des choses qui me semblent non négociables, qui me semblent capitales. Par exemple, le fait de prendre du temps, de donner du temps à ceux que j'aime, donc du temps à moi-même aussi, et de nourrir mon intériorité, de nourrir le lien à moi-même aussi, c'est quelque chose que j'avais probablement moins avant, et puis bien évidemment le lien aux autres, le lien à Dieu aussi. D'avoir pu développer, d'avoir pu nourrir et développer ça, conscientiser ça, essayer de travailler là-dessus, essayer d'avancer là-dessus, ça a été permis grâce à de telles épreuves de vie. Maintenant, peut-être que je l'aurais fait de toute manière, hein, mais en tout cas, j'ai changé et je ne regrette pas d'avoir lâché les cailloux et les boulets que j'ai lâchés.
Alors avant de vous laisser partir, mesdames, je voudrais m'adresser à celles et ceux qui nous écoutent et leur dire une chose simple. Ce livre n'est pas un livre triste. Ce n'est pas non plus un livre de recettes. C'est un livre qui marche à côté de vous. C'est l'image que je voudrais en retenir. Sur une île de crête peut-être. Et si en entendant Axel Hubert ce matin, vous vous êtes reconnu, hein, peut-être pour la première fois dans le mot aidant, et peut-être qu'il y aura des auditeurs qui se sont dit « Tiens, finalement, moi aussi, je suis un aidant. » Sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes des millions. Et ce livre, La ligne de crête des aidants, qui paraît le 15 mai aux éditions MAM, est fait pour vous. Alors, lisez-le, offrez-le à un proche ou simplement laissez-le sur une table. Il fera son chemin. Axel Hubert, vous finissez votre livre par deux mots. On continue. Alors, je vous dis, on continue.
Merci beaucoup, Clara.
Et puis, merci à vous, Valérie Daubigny. Merci et puis, beaucoup. Quelques minutes, s'il nous reste, pour la dernière chanson que nos invités ont choisie. Merci, chers auditeurs de Radio Courtoisie, et à dans 4 semaines.
Merci.
Merci. Voilà. Vas-y, finalement.
Merci.
J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été, donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté, donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voyage.
Vous venez d'entendre le libre journal de la liberté de penser dirigé par Clara Schneider. Émission préenregistrée le 29 avril 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie mercredi 6 mai, de midi à 13h30 et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.